Allez dans vos Bibles à Matthieu chapitre 2. J'aimerais vous montrer un petit verset qui est un de mes préférés. J'intitule mon message ce matin « Qui est cet enfant ?» Qui est cet enfant ? Et c'est le verset 11 de Matthieu 2. C'est le moment où les rois mages, alors le roi mage, c'est pas une invention, hein, c'est un groupe de personnages tout à fait réels qui sont venus d'un pays qui s'appelle la Parthe, la Perse, l'Iran aujourd'hui. Et ils étaient à la recherche d'un roi. Ils avaient les prophéties du prophète Daniel. Ils avaient aussi cette étoile miraculeuse qui les guidait. Et ils ont été guidés à l'endroit où Jésus était. Et regardez le verset 11. Il est dit ceci. Les rois mages, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et maintenant regardez. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. J'ai toujours trouvé incroyable le fait que ces rois mages se sont prosternés et l'ont adoré. Ils ont adoré cet enfant. Alors la question que je pose, c'est mais qui est cet enfant ? Qui est cet enfant que ces hommes adorent ? Et oui, c'est Noël, mes amis, c'est Noël. Et nous célébrons la naissance de Jésus. Alors, je pense que ceci suscite un nombre de questions assez intéressantes. Moi, la première que je pose, mais pourquoi est-ce que la naissance de Jésus-Christ est-elle plus significative qu'une autre naissance ? Pourquoi sa naissance à lui est-elle plus significative, par exemple, que celle de Napoléon ? Ou celle de Jules César ? Ou celle de Churchill ? En fait, allons encore plus loin. Pourquoi le monde a-t-il été si marqué par la naissance d'un homme ? Ah ben ça c'est une bonne question. Et je pense que la réponse est relativement simple. La naissance de Jésus-Christ a marqué le monde parce que Jésus-Christ était différent que tous les autres hommes qui sont nés dans le monde. Voilà la réponse dans l'histoire du monde. C'est la naissance la plus importante qui n'a jamais eu lieu. Pourquoi ? Parce que Jésus était unique. Tellement unique que ces hommes l'ont adoré. Donc je pose la question, mais qui est cet enfant ? Moi je parie que si on descend à Genève demain, après-demain, avec un micro, on devrait essayer une fois, on demande aux gens, écoutez monsieur, est-ce que je pourrais vous poser une question ? Oui, oui. Qui pensez-vous est Jésus-Christ ? C'est intéressant d'avoir cette interview. J'aurais dû le faire, hein. Ça aurait été sympa, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps, j'avais d'autres projets la semaine dernière, comme un petit concert qu'on a organisé, d'accord ? Quel genre de réponse est-ce qu'on entendrait des gens ? On leur pose la question, qui pensez-vous être Jésus-Christ ? Moi, je pense que peut-être certains diront, ah oui, écoutez, alors moi, je pense que Jésus-Christ était un excellent docteur de la loi. Donc, moi, je pose la question, je pose la réponse en question. Jésus était-il juste la... Ah oui, j'ai oublié de faire. Ouais, je vais faire un à la fois. Mais c'est pas grave, tu peux laisser. C'est bon. Était-il simplement un excellent docteur de la loi ? Certains diront, oui, mais Jésus était un grand docteur de la loi. D'accord. Mais je répondrai ceci. Est-ce qu'un un excellent docteur de la loi va prétendre être Dieu. C'est ce qu'il a fait dans Jean 10, le verset 30, il est dit ceci, Jésus parle, moi et le Père, nous sommes un. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Ben alors là, la suite, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous fais voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père pour laquelle vous me lapidez. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc les ennemis de Jésus ont parfaitement compris cette phrase, moi et le Père nous sommes un, comme une phrase où Jésus prétendait être nul autre que Dieu incarné. Et moi je dis, mais est-ce qu'un excellent docteur de la loi se fait passer pour Dieu? Alors si vous descendez la rue de Rive, vous posez cette question, qui est Jésus-Christ? Peut-être quelqu'un d'autre répondra, non, non, Jésus était un bon exemple qu'il faut suivre. Un bon exemple, pas plus. Mais est-ce que les bons exemples passent du temps à fréquenter les prostituées, les ivrognes et les politiciens corrompus? C'est intéressant, non? Dans Marc 2 et le verset 15, comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Un bon exemple? Ah bon? Non, alors d'autres sur la rue de Rive diraient, non, 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 non. Moi, je pense que Jésus, c'était un fou religieux. Un fou religieux. Ok. Réponse. Un fou religieux n'enseigne pas les principes qu'il a enseignés. Par exemple, dans Matthieu 5, 43, si c'était un fou religieux, est-ce qu'il aurait dit ceci? Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Un fou religieux dirait ça? Non, alors, non, 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 alors, bon, non, non. Moi, je pense que c'est un imposteur religieux. Un imposteur religieux. Le problème, c'est que les imposteurs religieux ne ressuscitent pas des morts. Il avait même prédit. Dans Matthieu 20, 17, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. » Et le troisième jour, il ressuscitera. Et Matthieu 28, 6, lorsque les femmes viennent au tombeau de Jésus pour le retrouver, elles rencontrent un ange qui dit, il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Non, les imposteurs religieux ne ressuscitent pas les morts, mes amis. D'autres diront, non, alors c'est un fantôme. Jésus est un fantôme. Bon, peut-être on n'aurait peut-être pas trop cette réponse, mais on ne sait jamais. Vous savez, aujourd'hui, on entend tout. Le problème, c'est que les fantômes n'ont pas chair et os, et on ne les crucifie pas. Il a vraiment vécu, historiquement, on le sait. Ah, mais alors voici une bonne réponse, enfin une réponse assez populaire. Qui est Jésus? Qui est cet enfant? Un mythe. invention pure et simple. Réponse. Un mythe n'affecte pas le calendrier de l'humanité. Écoutez, c'est intéressant. Notre calendrier est basé sur la naissance de Jésus. Un mythe ? On s'est tous fait duper depuis plus de 2000 ans. Était-il ces choses ? Réponse. Prochain slide. Non. Non. Est-il simplement ces choses ? Non. Mais alors, qui était cet enfant ? Ou qui est cet enfant ? Écoutez, peut-être la meilleure manière de procéder maintenant, c'est de voir ce qu'il lui dit de lui-même. Voyons ce que cet enfant qui a grandi a dit de lui-même. Et ce que nous allons voir, mes amis, c'est que Jésus a fait 5 déclarations absolument étonnantes. Et j'espère que ces 5 déclarations vont vous convaincre de qui est cet enfant. D'accord ? Donc c'est pas moi qui va vous le dire, c'est lui qui va vous le dire. Ensuite, à vous de décider, oui ou non. Là, je vais vous donner mon opinion, maintenant on va voir la vôtre. Première déclaration. Jésus dit ceci, Jean 6, 35. « Je suis le pain de vie. » Je suis le pain de vie. Écoutez, Jean 6, 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Verset 48, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus venait de faire un miracle, l'un de ses nombreux miracles, celui de la multiplication des pains et des poissons. Et on sait que la foule le suivait en partie parce qu'il voulait simplement être nourri gratuitement. Et donc il a dénoncé certains de ces gens qui l'ont suivi que pour, presque comme un comédien de cirque, pour faire encore un tour de magie. C'est là que Jésus se tourne vers ces gens et leur dit, mais attendez, va, arrêtez. Je ne suis pas venu que pour faire des miracles. Ces miracles ont eu but de montrer que je viens du Père. Mais le but de ces miracles, et surtout de la multiplication des pains et des poissons, c'est pour vous montrer qui je suis. Je suis moi, le pain de vie. C'est ça la déclaration qu'il fait ici. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous savez ce qu'il est en train de dire ici ? C'est incroyable. Qu'il est capable de rassasier notre faim spirituelle. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont très faim spirituelle. Ils cherchent des réponses. Ils regardent leur vie, ils se disent, bon, ben voilà, je vais au travail. C'est comme ils disent, c'est boulot, McDo, dodo, un truc comme ça. Non, ils disent ça. Non. C'est... Ah oui, boulot, métro, McDo, dodo, c'est ça, d'accord. Et il y a beaucoup de gens qui disent, c'est ça le but de la vie. Ah oui, de temps en temps, des vacances, ok, ça c'est sympa. Mais c'est vrai, ils se posent, mais c'est ça la vie. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et souvent, c'est lors de l'enterrement, où vraiment les gens sont un petit peu ébranlés, ils se disent, mais attends, à quoi je suis là pour quoi en fait? Et là, il se commence à se poser des questions. Mais est-ce que Dieu existe? C'est vrai qu'il y a quelque chose en moi qui veut croire en un Dieu. Ben, Jésus dit, ben, écoute, moi, en tant que personne, je peux satisfaire ta faim spirituelle. Et il dit au verset 51, si tu manges de ce pain, donc moi, il dit, tu vivras éternellement. Donc là, on voit tout à fait qu'il y a une dimension spirituelle et éternelle, c'est une sacrée promesse. Tu peux vivre et connaître Dieu, vivre dans sa présence éternellement, pour l'éternité. Et quelle est la condition? Verset 35. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ah, donc il y a une démarche à faire. Te dire, ah, je considère Jésus, tu es le pain de vie. Oui, je crois que peut-être tu peux vraiment satisfaire ma faim spirituelle, me donner la vie éternelle. Donc je décide à un moment donné de venir à toi. Je m'abandonne à toi. C'est beau, non? Deuxième déclaration qu'il fait de lui-même. Jean 7, 37. Il dit, je suis l'eau vive. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et dans Jean 4, et le verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, parlant de l'eau d'un puits, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Donc le contexte ici, c'est la fête juive des tabernacles. Le dernier jour, le grand jour de la fête, nous dit le verset 37, se fêtait une fois par année, et commémorait la préservation du peuple juif lorsqu'il fut 40 ans dans le désert. Et donc ici, les Juifs remerciaient Dieu pour trois choses, leur préservation dans le désert, sa provision de nourriture et d'eau dans le désert, et sa direction par le nuage et par la colonne de feu. Le rituel était assez intéressant. Selon Lévitique 23-40, le peuple se réunissait avec des larges branches d'arbres qu'ils tenaient au-dessus de leur tête comme symbole d'une tente et se rendaient au temple. Le prêtre apparaissait tenant un grand vase en or. Ils allaient tous de la piscine de Siloé ou de Siloam. Là, ils remplissaient son vase d'eau. Avec la multitude qui le suivait, il retournait au temple par le portail de l'eau en récitant Ésaïe 12:3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Ensuite, le prêtre prenait ce vase d'eau et il versait l'eau sur l'autel, accompagné de chants qui étaient chantés par la chorale des Lévites. Et ce jour-là, pendant que le prêtre faisait de ses cérémonies, juste quand il allait verser l'eau, il y a une interruption dans la cérémonie. Jésus s'est levé et a crié de toutes ses forces, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. » Oui, le texte nous dit que Jésus s'écria, il a crié de toutes ses forces. Il a dû le faire pour se faire entendre parmi la foule. Et à ce moment-là, les gens regardent l'eau, mais tout d'un coup, leur regard se tourne vers Jésus, il dit, c'est moi l'eau, je m'offre moi comme eau vive. C'est moi qui ai le pouvoir de vous donner la vie éternelle. Alors, quelles sont les conditions pour être désaltéré par Christ? Premièrement, il faut avoir soif. Deuxièmement, il faut venir à Christ. Et troisièmement, il faut boire. Si tu n'as pas soif, si tu ne viens pas à Christ, et si tu ne bois pas, tu n'auras pas la vie éternelle, c'est ce qu'il dit. Et si tu ne bois pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est ton choix. Mais Jésus a dit à la dame, la Samaritaine au puits, quiconque boit de cette eau, donc l'eau normale, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. C'est incroyable. Si tu bois à la source de Christ, il te satisfera spirituellement pour toujours. Trois. Je suis le pain de vie, je suis l'eau de vie. Numéro 3, je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Écoutez, franchement, là, c'est des déclarations tellement étonnantes. Je me dis, ou bien il était fou, ou bien c'est vrai. Bon, vous connaissez ce que je pense, bien sûr. C'est pour ça que les gens disent, mais il est fou. Non, il n'est pas fou. Pas s'il est le Messie. Là, je vais trop loin. 3. La lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Le contexte, c'est quoi? Le verset 20, dans Jean 8, nous donne le contexte. Jésus dit ces paroles en s'enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Donc c'était l'endroit dans le temple juif où les offrandes étaient offertes, où les gens amenaient leur argent, dans la cour intérieure. C'était le jour, lorsqu'il a fait cette déclaration, après la fête des tabernacles, et ce jour-là, c'était la cérémonie de l'illumination du temple. Un immense chandelier fut placé au milieu de cette cour, allumé de bougies. L'effet était étincelant pour commémorer le pilier de feu dans le désert. Et donc c'était apparemment, là, ils ont allumé ce chandelier, où Jésus se place juste à côté du chandelier, et il fait cette déclaration. Donc là, on voit le visuel, hein. Les gens regardent la lumière, lui à côté dit « Je suis la lumière du monde. » Alors cette phrase est vraiment intéressante. Il ne dit pas « Je suis une lumière du monde ». Qu'est-ce qu'il dit ?« Je suis la lumière du monde. » Il dit pas « Je suis la lumière de la Suisse » ou du Brésil, ou du Congo, ou je ne sais pas où. Non, il dit, je suis la lumière du monde. Cela veut dire qu'il n'y a qu'une lumière pour tout le monde. Certains diront, bah, dis, c'est pas un peu étroit ça? Un petit peu? Ben, écoutez, Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et au cas où on n'aurait pas compris, il rajoute, « Nul ne vient au Père que par moi. » C'est pas un petit peu étroit, c'est hyper étroit. Et oui, Jésus est la lumière du monde. Et il dit, je suis la lumière du monde, verset 12, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Quelle est la condition pour être éclairé par cette lumière? Eh bien, il faut le suivre. Ce n'est pas une lumière à contempler, c'est une lumière à suivre. Et quelles sont les conséquences de la suivre, verset 12? Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voyez-vous, la Bible nous dit que les hommes vivent dans les ténèbres. C'est une manière de dire que l'homme est sous l'emprise du péché. On est né dans le péché. L'homme vit une vie tragique, en fait. Romains 3 nous le décrit comme ceci, selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Oui, les gens disent, oui, mais attends, moi je suis assez bien comme personne. Je pense que quand Dieu vous regardera à la fin, il dira, oh John, toi tu passes. Ah bon? C'est quoi le critère de Dieu? Bien sûr, tu peux le comparer à d'autres et dire, bon, moi je suis pas comme telle ou telle personne. Eux, c'est vraiment mauvais, moi je suis quand même assez correct. D'habitude, il vous sort toujours, bon, moi j'ai tué personne. Ah bon, balance, si tu as tué personne, tu passes. C'est comme ça que ça marche dans l'économie de Dieu? Non, l'économie de Dieu, elle est simple. Pour passer, il faut être parfait. Parce que Dieu est parfait. Habacuc 2, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. La seule manière de passer l'éternité dans la présence de Dieu, c'est d'être parfaitement pur. Or, aucun homme, par ses propres efforts, peut devenir parfaitement pur, c'est impossible. Et c'est pour ça que Jésus ici dit que les hommes marchent dans les ténèbres. On marche dans un monde de péché. Parce que nous sommes pécheurs. Éphésiens 2, Paul dit, « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. » Et quel est le résultat d'être dans ce monde déchu? Jean 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, qui est la lumière? Jésus-Christ. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Voyez-vous, les hommes aiment leurs péchés, ils aiment les ténèbres. Et lorsque Jésus, la lumière du monde, est venu, ouah! Parce que cette lumière a éclairé le péché des hommes. Donc tu as deux solutions. Ou bien tu te laisses éclairer et tu laisses être pardonné par cette lumière. Ou bien tu élimines la lumière. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont crucifié la lumière. Et voilà le choix que chaque homme doit faire aujourd'hui. Comment est-ce que je réagis à cette lumière? Ou bien je laisse cette lumière m'exposer et me montrer qui je suis. Et donc je demande pardon à Christ pour mon péché. Et lui, sa mort et sa résurrection me sauvent. Ou bien... Coup, je fais pareil. Et je l'élimine. Parce qu'elle me trouble, cette lumière. Quatre. C'est encore les déclarations étonnantes de Jésus. Jean 10, 11. Jésus dit, « Je suis... le bon berger. » Je suis le bon berger. Ensuite, il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Vous avez déjà vu un berger, peut-être? Je ne suis pas un grand connaisseur de bergers, mais je crois savoir que les bergers gardent des troupeaux. D'accord? Ils sont là pour guider le troupeau dans les verts pâturages, mais aussi les protéger. C'est pour ça qu'ils ont un bâton. Le bâton, c'est tac, il y a le loup qui vient, paf! D'accord? Tu arrêtes le loup, tu le tues. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, ils ont d'autres moyens. Tchou, hein, je sais pas, peut-être des revolvers, des carabines. Mais à l'époque, c'était le bâton. Mais oui, parce que le verset 10, juste avant le verset 11, dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. » Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais vous, la Bible affirme qu'il y a un voleur, l'égorgeur, le destructeur, c'est Satan. Satan existe. Peut-être vous dites, ouais, mais je crois pas en Satan. Mais regardez autour de vous. Vous savez, il y a des cultes sataniques. Vous savez ça? Il y a vraiment des églises sataniques. Il y a des gens qui adorent Satan directement. C'est vraiment clair et net. C'est assez remarquable. Jean 8, 44, Jésus a dit ceci. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Il ne se tient point dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est menteur et le père du mensonge. Oui, Jésus pensait que Satan était bien réel, un individu réel. La Bible nous dit que c'est un ange déchu. Ésaïe 14, Ézéchiel 28 nous décrit cet ange déchu qui s'appelle Satan, qui a pris avec lui un tiers de tous les anges, et c'est ce qu'on appelle des démons aujourd'hui. Et nous savons très bien qu'il y a des gens qui sont possédés par des démons et par Satan. Voilà qui est le destructeur. Alors c'est tellement réconfortant, je trouve, de lire le verset 10, ça c'est le verset qui fait peur, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. » Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est beau, non? Il offre l'abondance, verset 10. Il offre la sécurité, verset 10. Il offre sa vie, verset 11. Il offre le réconfort, verset 10 et 11. Et il offre l'éternité. C'est un bon berger. Est-ce que vous connaissez peut-être le texte le plus connu de toute la Bible? Je parie que vous allez le reconnaître. L'Éternel est mon berger. Le psaume numéro... Ouais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Écoutez, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est intéressant que dans l'Ancien Testament, l'Éternel est mon berger. Jésus dit dans le Nouveau Testament, je suis le bon berger. Qui est Jésus? Oui, Jésus est Dieu fait homme. Cinq. Jean 11, le verset 25. Alors mes amis, tenez-vous. Là, c'est vraiment du radical, d'accord? Jean 11, 25. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Ensuite, il dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors, le contexte est très intéressant ici. Lazare vient de mourir. Ça fait 4 jours qu'il est enterré. Quand Jésus dit « Ouvrez le tombeau », la sœur de Lazare dit « Non, mais t'es fou !» Parce qu'il sent mauvais. Son corps était en décomposition. Et Jésus dit « Ouvrez quand même le tombeau ». Et ensuite, il fait cette déclaration. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quelques minutes plus tard, il ressuscite Lazare. Jésus avait dit dans Jean 5, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Et le verset 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Vous savez ce que Jésus est en train de dire ici? Qu'il a le même pouvoir que son Père de donner la vie. Il donne la vie à quelque chose de mort. Et il l'a prouvé à plusieurs reprises en ressuscitant un mort. Et il l'a finalement fait en se ressuscitant lui-même, 3 jours après sa mort. Alors mes amis, écoutez. Parmi tous les hommes dans l'histoire du monde qui ont prétendu être la vérité religieuse du monde, et où on sait qu'il y en a beaucoup. Beaucoup d'hommes ont prétendu, « Eh, suivez-moi, c'est moi qui ai la vérité. » Plein de religions, plein de sectes, plein de groupes, plein de gourous, plein de soi-disant prophètes et messies. Il y en a un paquet. Moi, je dis ceci. Parmi tous ces gens, il n'y en a qu'un dans l'histoire du monde qui a prétendu qu'il allait ressusciter des morts et qu'il l'a fait. Et qui, pendant toute sa vie, a ressuscité des gens pour prouver qu'il allait le pouvoir de le faire. Et moi, je dis, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ben moi, j'aimerais poser la question à quelqu'un qui est revenu de la mort, et il n'y en a qu'un, Jésus-Christ. Lui a la vie. Lui a la vie de ressusciter les hommes. Et c'est pour ça qu'il dit ici, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Donc la condition, mes amis, d'avoir cette vie, c'est de croire en lui. C'est ce qu'il dit. C'est de croire en lui. Celui qui croit en moi, c'est lui qui aura la vie. Alors je vous pose une question. Elle est toute simple. Qui est cet enfant? Qui est cet enfant? Est-ce qu'il était simplement un excellent docteur de la loi? Est-ce qu'il était simplement un bon exemple à suivre? Est-ce qu'il était un fou religieux? Est-ce qu'il était un imposteur religieux? Est-ce qu'il était un fantôme, un mythe? Non. Donc, qui est cet enfant? Prochaine diapo. Non, Jésus-Christ est le sauveur du monde, mes amis. Et rien de moins. Luc 19, 10, Jésus le dit tellement clairement, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est intéressant, Jésus ne dit pas qu'il faut faire quelque chose pour avoir la vie éternelle. Vous savez ce qu'il dit? Il dit premièrement, je suis le pain de vie. Deuxièmement, il dit, je suis l'eau vive. Troisièmement, il dit, je suis la lumière du monde. Quatrièmement, il dit, je suis le bon berger. Et cinquièmement, il dit, je suis la résurrection et la vie. Il dit qu'il peut nous rassasier spirituellement, parce qu'il est le pain de vie. Qu'il peut nous désaltérer spirituellement, parce qu'il est l'eau de vie. Il dit qu'il peut nous éclairer, nous pointer dans la bonne direction, parce qu'il est la lumière du monde. Il dit qu'il peut m'offrir une vie abondante et de sécurité parce qu'il est le bon berger. Et il dit qu'il peut me donner la vie éternelle parce qu'il est lui-même la résurrection et la vie. Y a-t-il des conditions ? Oui. Les voici. Premièrement, il faut avoir faim. Deuxièmement, il faut avoir soif. Troisièmement, il faut être perdu et dans les ténèbres. Quatrièmement, il faut être une brebis égarée qui cherche un berger. Et cinquièmement, il faut admettre quelque part qu'on est mort spirituellement et qu'on a besoin d'être ressuscité par celui qui est la vie. Si tu ne connais pas Christ ce matin, peut-être que le Seigneur t'a amené ici pour que tu puisses enfin venir au bon berger. Cet enfant qui était nul autre que le Sauveur du monde, devant qui ces mages d'Orient se sont prosternés et ont adoré. Je t'invite ce matin à venir adorer Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur si tu ne le connais pas.